RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct avec vous. On parle des impôts là pendant 10 minutes, un quart d'heure, des impôts. Mais puisqu'on parle argent, puisqu'on parle gros sous, j'ai le coffre RMC qui revient. Attention, le coffre est de retour et on a 50 000 euros à vous offrir. Dès que vous entendez le signal, vous avez 5 minutes devant vous pour envoyer coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216. On va largement vous laisser le temps de vous inscrire, quasiment une semaine. Et vendredi prochain, c'est l'un d'entre vous qui sera sélectionné dans les GG pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous avez d'ores et déjà gagné 2500 euros. Vous pouvez dire, écoutez, les 2500 balles, je les garde. Ou alors, vous les remettez en jeu. Et si vous les remettez en jeu, on ouvre le coffre. Et dans le coffre, soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan, une semaine de vacances pour 6 personnes, soit peut-être les 50 000 euros. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, à vous de jouer, à vous de gagner, en envoyant coffre par SMS au 732-16. Revenons à notre discussion sur les pépettes, sur les impôts.
On a une tendance.
Alors, justement, une équipe dit oui, il faut augmenter les impôts, en précisant que augmenter les impôts pour tout le monde, mieux répartir, avec quand même un petit peu plus
et
pour
les super riches quand
les
même.
Super surtout, riches,
surtout,
et la,
surtout les super
la super taxe pour les super riches.
Et renverser le capitalisme aussi. Moi, je dis
ça. Voilà. Je suis sûr non, que tu lire, les lire le rapport Pisa-Ferry.
T'en as pour s'endormir, il compte. Et toi, tu dois citer les noms de tous les riches pour t'endormir.
Non, non, je connais. Quand il s'endort, il dit Bernard Arnault, François Pinault.
Mais non, je ne dormirai pas. Après, j'aurai envie toujours de leur faire du mal.
Alors, on y va. On regarde. Faut-il augmenter les impôts, oui ou non? Flora et Bruno ont remarqué qu'ils faisaient souvent équipe ensemble. On leur disait aussi qu'ils faisaient équipe ensemble.
Et
ils
perdaient.
C'est des losers.
Alors attention. On en va. On y va.
Oh
non, on augmente pas les impôts à 86%. Nathalie, bonjour.
C'est le taux d'imposition.
Alors attention.
C'est un score poutinien.
Nathalie qui vient du Puy-de-Dôme. Quel temps dans le Puy-de-Dôme, tiens, alors où on se parle là?
Il fait très très beau.
Ah, vous avez de la chance. Super. Ma chère Nathalie, quelle équipe avez-vous intégrée? Celle de l'augmentation des impôts ou non?
Alors moi, je suis pour l'augmentation des impôts, mais pas pour tout le monde.
Voilà,
c'est-à-dire que pour les gens qui payent des impôts actuellement, on est sous l'eau, pris à la gorge. Par contre, moi, je suis gestionnaire de paye, j'envoie des bulletins et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas imposables. Et je pense qu'il faut mettre l'impôt sur tout le monde. Ouais. Il faut que sur notre feuille d'imposition, on retrace réellement ce que touche un ménage. Il faut que les allocations qu'on touche, les aides pour l'emploi, apparaissent. Parce qu'il y a une forte inégalité entre les gens qui touchent des aides et ceux qui n'en touchent pas. Donc moi, je suis pour que tout le monde paye de l'impôt, que tout le monde soit concerné par l'impôt, par parce que l'hôpital, ça concerne tout le monde, le ramassage des poubelles, le nettoyage des rues, ça concerne tout le monde. Donc tout le monde doit être concerné et doit payer des impôts.
D'accord. Vous, aujourd'hui, vous êtes à un fort niveau d'imposition, Nathalie, ou pas?
Alors, moi, je gagne. Alors, moi, je trouve que l'impôt et les aides sont complètement injustes. Je suis révoltée. Je suis une famille de 2 personnes avec 2 enfants. Nous payons pas mal d'impôts, mais c'est parce que je suis mariée. J'ai la malchance d'être mariée. je serai célibataire, avec mon mari, sur le régime fiscal, j'aurai le droit aux aides pour l'emploi que je n'ai pas. Et je pense que voilà, il faut revoir tout le système. Faut
c'est pas votre mari, Nathalie, le problème, pardon, c'est la fiscalité française.
Hein. Oui, c'est la fiscalité.
Après, c'est un autre sujet. Hein,
exactement, je vous rejoins. Mais en fait, la fiscalité, non, c'est pas un problème. Mais il faut revoir, on aide, on nous rabaisse, nos salaires sont rabaissés, sont de plus en plus bas. On a créé un fillon pour aider les entreprises. Et ben moi, je souhaiterais qu'on supprime ce fillon qui bloque nos salaires à 1,6 du SMIC et que à côté, on recrée un fillon pour aider les entreprises qui augmentent les salaires.
Nathalie, j'avais eu cette discussion avec notre ancien ministre Olivier Dussopt, justement sur le plafond fillon, lui disant il
c'est
faut
ministre. Hein.
Il faut
non, il est plus ancien ministre.
Ah
non,
c'est vrai, il est parti.
Ah, j'avais oublié qu'il était parti.
Il est parti devenir l'adjoint de Véran à la chirurgie esthétique.
Petit temps, j'ai parlé.
Le sujet, c'est pas là, c'est 1,6 fois le SMIC. Et il m'a répondu, vous avez qu'à augmenter le SMIC et vous verrez que le 1,6, il augmente automatiquement. Et il a pas forcément tort, oui, parce que effectivement, les allègements, il suffit effectivement d'augmenter le SMIC pour que tu passes une autre catégorie aussi de personnes. Elle est gestionnaire de paye, Nathalie va comprendre ce que je dis, pour que tu passes plus de monde dans un plafond.
Non, mais écoute, juste, non, mais ce que dit Nathalie, c'est intéressant. Pour revenir sur ce que dit Nathalie, tu pourras compléter. 44% des Français payent l'impôt sur le revenu, 75% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des ménages.
C'est ce que je voulais dire, c'est que Nathalie, et ça, pardon, mais c'est François Hollande qui a aggravé ces inégalités, notamment sur l'impôt sur le revenu, puisqu'il a voulu sortir pour des raisons électorales beaucoup de Français de l'impôt sur le revenu, et il a créé encore plus d'inégalités. Parce qu'effectivement, je pense que Nathalie, il y a un sentiment d'injustice en France. La France moyenne, les Français de la classe moyenne qui représentent 70% de la population, on a l'impression quand même que eux, ils payent des impôts, mais qui ne touchent jamais les aides, qui ne touchent jamais les chèques, etc., parce qu'il y a toujours des plafonds. Et donc, en fait, effectivement, et là, je rejoindrai Bruno, on a peut-être un système en France qui privilégie les super riches, mais aussi qui privilégie les pauvres. Et finalement, la France, qui est faite avant tout de Français qui touchent entre 1500 et 3500, c'est ça, la classe moyenne, eh bien, n'a droit à rien. Et ce sentiment d'injustice, à mon avis, c'est le sujet numéro un qu'il faudra traiter à la prochaine session.
Mais c'est ce que vous ressentez, Nathalie, ça.
Oui, et puis en plus, pour revenir au Fillon, alors 1,6, c'est sûr que ça limite notre salaire et les augmentations. De plus, depuis janvier, pour les déductions URSSAF et Sécurité sociale, on ne prend pas le SMIC en vigueur au 1er janvier, on prend le SMIC en vigueur du 31 décembre 2023. Bon. Donc, c'est on joue dans
l'autre
sens.
Vous êtes du côté de Paris, Nathalie ?
Non, je suis sur...
Tu veux l'embaucher ? Ouais, justement, parce que je la trouve efficace sur le sujet de la...
Nathalie, on va écouter un autre point de vue que le vôtre, si vous le permettez, Nathalie, puisque vous êtes dans le Puy-de-Dôme, on va aller du côté de la Haute-Garonne, avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes gueules.
Alors Nathalie a dit non, on n'augmente pas les impôts, par contre on repense tous les impôts. Alors vous, dans quelle équipe êtes-vous ? On augmente ou pas ?
Bah en fait moi je suis pour l'équipe où on paye que les gens qui payent pas d'impôts payent des impôts en fait.
Ouais mais c'est
parce que comme vous l'avez rappelé on est que 44% à payer des impôts.
Voilà.
Moi ça tombe bien parce que vous en parliez. Je fais exactement partie de cette classe moyenne là qui paye des impôts qui n'a pas d'aide. Moi j'ai zéro aide, j'ai un enfant, j'ai zéro aide. Avec ma femme on travaille tous les deux, on a une entreprise à côté qui privilégie le commerce local. Et on a zéro aide. On paye le
staff,
on paye tout, je paye des impôts, j'ai zéro aide. Et moi, en fait, je suis pour que, en fait, cette partie de la France qui ne paye pas d'impôts et qui bénéficie des aides, paye des impôts, en fait, qui contribue, du coup, aussi, à l'effort public,
Mais voyez, ce que vous dites, Pierre, et ce que dit Nathalie, c'est intéressant, d'autant qu'on sera avec Bruno Le Maire, lundi dans les GG, le ministre de l'économie, qui est en train de s'appeler maintenant le ministre des économies. C'est, avant de penser à augmenter les impôts, est-ce qu'on peut pas déjà repenser la fiscalité, l'inégalité de la fiscalité? Alors après, il met une super taxe s'il veut ou pas. Mais
la grande réforme fiscale,
elle n'a jamais eu lieu.
Elle avait été promise par quasiment tous les présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, elle n'avait jamais eu lieu. Parce qu'en fait, quand tu commences à mettre sur la table toute la fiscalité, il y a toujours une bonne raison. Il y a des niches fiscales que tu peux pas toucher parce qu'il y a des gens qui vont dire derrière, maintenant, cette niche fiscale est importante. Tu vas baisser tel impôt et augmenter un autre, tu vas forcément faire des mécontents.
Mais même avant même de changer les choses, est-ce qu'on peut comprendre le fonctionnement de l'impôt en France?
C'est une complexité.
Est-ce que, moi, j'ai, en début d'année, là, j'ai, malheureusement, je peux pas être prélevé à la source. Bref, je voulais être prélevé à la source parce qu'au moins, c'est plus simple. Mon statut, bref, pas possible. J'ai essayé de faire mon calcul pour l'année, de savoir ce que je devais mettre de côté, parce que sinon je me retrouve
mal. Pardon, désolé, on revient à notre discussion dans un instant. Mais là,
ça va aider à payer les impôts.
C'est les 50 000 euros qui vont tomber, j'espère. Vous avez entendu l'alarme.
Un peu plus quand même.
C'est le coffre. 50 000 euros à gagner. Vous avez 5 minutes, pas plus. 5 minutes devant vous pour m'envoyer coffre par SMS au 732-16.
Est-ce que c'est considéré comme un revenu?
Non, c'est considéré comme un gain. C'est un gain de jeu, donc c'est pas imposable.
C'est net d'impôt. C'est intéressant.
C'est toujours net d'impôt.
Pour une fois, ça échappe à l'impôt.
Donc, 50 000 euros. Je vous rappelle. Attends, je finis, puis après, t'expliques, Stéphane. Donc, si vous vous inscrivez, vous êtes tiré au sort, vous gagnez les 2500 euros. Soit vous les gardez, soit vous ouvrez le coffre. Et si vous ouvrez le coffre vendredi prochain, eh bien, soit vous avez une semaine de vacances dans les campings Tikayan pour 6 personnes. Soit peut-être les 50 000 balles. Donc ça vaut le coup de tenter votre chance et d'envoyer coffre par SMS 732-16. Vas-y, explique alors.
En fait, c'est un jeu et tu peux gagner comme perdre. Et les jeux, à partir du moment où tu peux gagner comme perdre, eh bien, ils sont totalement exonérés d'impôts. En revanche, 50 000 euros si tu achètes un appartement et que tu génères du coup du revenu locatif derrière, bah là tu vas être imposable.
On revient à notre discussion avec Pierre, donc, qui était avec nous du côté de la Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Pierre, aujourd'hui du gouvernement, alors justement, face aux déficits et autres?
Bah moi j'aimerais en fait, comme je vous l'ai dit, que tout le monde paye des impôts, parce qu'en fait les gens qui bénéficient des aides, c'est des gens qui payent pas d'impôts au final. Et puis moi je suis pour du coup qui paye des impôts, et je suis pour qu'on baisse aussi les aides sociales. Je trouve qu'on donne beaucoup d'argent à des gens qui ne méritent pas. Vous voyez. Et puis on dit toujours ouais, mais alors je les entends, les gens de gauche, ouais mais non, c'est pas, il y en a pas tant que ça, etc. Moi je peux vous en citer, mais à l'appel qui gagnent de l'argent, qui touchent de l'argent de l'État et qui ne foutent rien de leur journée.
Et comme vous l'avez dit,
qui préfère ne pas travailler, parce que s'ils commencent à travailler, ils gagneront moins d'argent, ils commenceront à payer la cantine, ils payeront l'essence.
J'en connais plein.
Et du coup, les députés, les sénateurs. Mais j'en connais à l'appel. Mais non, pas les députés.
Les députés, les sénateurs, ils touchent plein de ronds.
C'est facile.
Autant dire que les gens qui foutent rien, ce qu'ils gagnent pas. Enfin, moi, je vous ai tellement facile ce discours. Mais moi, je vis pas dans une tour d'ivoire, en fait.
Mais prends-le leur job. Si t'es pas content, prends-le leur job.
Mais quel job? Tu crois que je vais faire de la politique? Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je gagne 2500 balles à faire le guignol dans un bureau, mon gars. Je vais pas m'amuser à faire député pour 8 000.
Le guignol,
c'est génial.
Attendez, allez-y.
Un aveu, enfin.
Allez-y.
Je veux pas qu'il s'y le guignol. C'est ma vie.
On tire toujours sur les mêmes. Moi, je te dis, Bruno, leur boulot aux députés, aux sénateurs, bon, peut-être pas le sénateur, parce que ça, je leur mets en question.
Ah, t'es trop jeune en plus,
Pierre. Mais les mecs du gouvernement, moi, je le prends pas leur boulot, hein. Je le prends pas, hein. Même à 10 000 euros par mois, je le prends pas leur boulot. Ces mecs-là, ils font pas de vacances. Ils travaillent 24/24.
Ah, tu vas pas les plaindre. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais quand t'es délégué syndical au niveau GT, t'es comme un homme politique, parce que t'es tout le temps sollicité. Et moi, je gagnais pas plus de ronds à faire ça.
Alors, Pierre et Nathalie, attendez. Je voudrais qu'on continue d'écouter les points de vue, parce qu'avec Pierre et Nathalie, que ce soit du Puy-de-Dôme ou de la Haute-Garonne, on a deux personnes qui disent non. Voilà, on veut pas d'augmentation des impôts.
Quelqu'un qui dise
on
oui.
veut une ouais, meilleure répartition. Oui. Ouais. On a Samy qui est dans le Loiret. Samy qui est fonctionnaire. Bonjour Samy. Ben
voilà. Oui, bonjour.
Il y a des gens de gauche, écoute les grandes gueules.
Alors, allez-y Samy, vous êtes pour l'augmentation.
Alors moi, ce que j'aimerais, c'est une augmentation des impôts, mais sur les catégories qui en payent le moins, en fait.
Qui ça
étaler. Mais, alors les plus, alors pas les plus pauvres, enfin les plus modestes, au contraire, parce que les plus modestes, il faut savoir que l'impôt sur le revenu n'est pas la principale source financière de l'État.
C'est surtout la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée,
et la CSG, donc ce sont des impôts proportionnels, voire dégressifs pour la TVA. La TVA, proportionnellement au revenu, elle est davantage payée par les plus pauvres.
Enfin, on paye si on consomme. Oui, mais on consomme moins. Si on a moins d'argent, on consomme moins.
Oui, mais c'est un scandale.
En pourcentage du revenu, on paye davantage la TVA lorsqu'on est relativement modeste. Hmm. En pourcentage, hein, je ne dis pas en euros.
Oui, bien sûr.
Donc relativement, c'est un impôt qui est très injuste. En France, les impôts les plus injustes sont les plus importants. Ce sont soit des impôts proportionnels, soit dégressifs, comme la TVA. L'impôt sur le revenu ne rapporte, c'est pas la principale source financière. Donc on focalise là-dessus, alors que c'est pas le principal problème en France.
D'accord.
Et l'autre point sur lequel je voulais venir, c'est que les plus riches, il y a certaines études, notamment de Piketty, hein, l'économiste français, qui ont montré que atteint un certain niveau de richesse, l'impôt était imposé moins les plus, les plus fortunés. Et donc, on a un système globalement qui, à partir des 90% des moins riches, on va dire le dernier décile et surtout le dernier centile, les riches sont davantage moins imposés que les
alors,
que
Samy, vous faites réagir,
oui,
Flora.
Samy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, la meilleure proposition pour la transition écologique, ce serait de faire le distinguo entre l'économie du besoin et l'économie du désir sur la TVA. C'est-à-dire que la TVA, on la baisse sur l'économie du besoin. Donc, par exemple, acheter à manger, se déplacer, enfin voilà, les choses du quotidien dont les Français ont vraiment besoin. En revanche, tout ce qui est l'économie du désir qui est infinie et qui est très productrice en ressources, par exemple la fast fashion, on met la TVA. Donc la TVA, c'est un vrai levier fiscal et c'est vrai que c'est injuste qu'on paye 20% sur notre paquet de pâtes, quel que soit notre revenu.
Pour répondre précisément
à Samy,
puisque Samy disait qu'il faut taxer les plus riches, peut-être, pourquoi pas, mais je rappellerai que l'empreinte fiscale totale de LVMH, Bernard Arnault étant le premier contribuable français, LVMH, hein, donc là c'est la société LVMH, l'empreinte fiscale totale a été calculée, on prend l'impôt sur la société, la TVA, les charges sociales de LVMH en France, c'est plus de 4,5 milliards d'euros par an.
Et les dividendes...
Donc LVMH,
Non mais donne, d'accord. Qui était imposé sur les dividendes, oui. De toute façon.
LVMH donne 4,5 milliards d'euros par an.
C'est proportionnel.
4,5 milliards d'euros, c'est le budget de l'audiovisuel public.
Oui, mais les valeurs absolues, ça ne veut rien dire.
Et c'est 12% de ses revenus. Moi, je donne 12 à 14%.
Mais moi, les valeurs absolues, ça m'intéresse.
Pourquoi est-ce que lui, c'est pareil?
Pardon, on a plus besoin de Bernard Arnault que de gens qui sont des poids dans la société.
On a bien compris tes propos.
C'est fini.
On défend les copines, Olivier.
Je me suis trompé, je voulais envoyer le sifflet, j'ai envoyé le mouton. Alors, attends.
Oui, mais c'est un peu le cas.
Voilà,
peu
c'est le cas, bon, c'est fait. Faut-il augmenter les impôts? Non, oui, non, merci à tous d'être venus discuter. Merci à Samy qui a conclu notre discussion. Le déficit abyssal, est-ce qu'on
on augmente 14,
les impôts? Aggraver votre carte.
On sait.
Regarde. Le poids de ta défaite. Alors, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non.
Les
86-14, 86% des Français.
Malgré Olivier Truchot, sa mauvaise foi.
Dans un instant.
Et on est encore là un peu. Hein.
Avec les GG.
Restez avec nous.
Avec les grandes gueules. Non, notre ami Vincent Mantinghem, journaliste à BFM TV, journaliste police-justice. Il a écrit un livre sur ses avocats. Avocats qui défendent des clients, parfois pour certains, que l'on pourrait considérer comme indéfendables. Il a rencontré ses avocats, il est venu avec l'un d'entre eux, et pas n'importe lequel, Maître Vavasseur, avocat de Michel Fourniret. Les défendre tous, Vincent Mantinghem, Maître Vavasseur, à tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours de 9h à midi à la radio, à la télé. Vous avez déjà les podcasts à votre disposition. Les deux premières heures des GG sont passées. Vous les récupérez sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et vous avez notamment les petits off, ce qui se passe pendant la pub, les petits indiscrets, les questions personnelles. Tout ça, ça se retrouve sur les podcasts. Ne vous privez pas. On accueille nos deux invités.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Alors, on accueille un collègue de travail qu'on connaît bien, on travaille avec lui. Donc, c'est Vincent Mantinghem, journaliste au service police-justice de BFM TV. Bonjour Vincent.
Bonjour à vous.
Et tu es venu avec Maître Vavasseur. Bonjour Maître Vavasseur.
Bonjour.
Parce
bonjour
que tout le monde. L'idée de cette enquête, c'est d'aller à la rencontre des avocats qui défendent des gens qui, pour mon avis, la plupart des Français, sont indéfendables. Des tueurs en série, des personnes, des terroristes, des personnes qui ont tué leurs enfants, etc. Pourquoi justement aller à leur rencontre?
Les défendre tous, c'est le titre du livre aux éditions du Rocher.
Oui, c'est le titre du livre, donc les défendre tous. Et c'est d'ailleurs, c'est un livre qui est, c'est un titre qui est très célèbre parce qu'en 74, il y avait un grand avocat qui s'appelle Albert Nau qui a écrit son autobiographie. C'était le même titre et j'en fais allusion dans vos propos de cet ouvrage. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est d'aller à la rencontre de ces gens que je vois régulièrement, c'est-à-dire les avocats, sur cette question de la défense et aussi sur le lien humain qu'ils peuvent avoir avec un client. Parce que quand on a un client tel qu'un tueur en série, un terroriste ou quelqu'un qui a fait des actes monstrueux, on se pose aussi la question, comment est-ce qu'on est atteint nous-mêmes en tant qu'avocat dans notre vie personnelle? C'était cette question qui m'intéressait, comment est-ce qu'on vit tout ça? Est-ce qu'on se pose des cas de conscience? Est-ce qu'on a des questions de notre entourage? Est-ce qu'on arrive à vivre avec ça? Comment on fait pour les défendre? C'est vraiment ce lien humain qui m'intéresse.
Mais Maître Vavasseur, comment se retrouve-t-on à défendre un tueur en série comme Michel Fourniret?
On va dire que pour moi, c'est un petit peu le hasard de la vie, puisque M. Fourniret n'a jamais choisi ses avocats. Il a toujours demandé des avocats commis d'office, quelques furent ses dossiers. Et en ce qui me concerne, donc, il a eu un dossier qui est tombé dans les Yvelines, puisqu'il a tué Farida Hamish. C'est un dossier que vous connaissez peut-être, mais je peux vous en parler plus avant tout à l'heure. Et donc, pour cette occasion, lorsqu'il a été mis en examen à Versailles, il a demandé le plus quelconque avocat du quelconque barreau local. C'est la formule qu'il emploie.
Donc c'est le hasard.
Hasard. Et donc, mon bâtonnier qui me faisait confiance m'a désigné.
Mais alors, attends, comment ça se passe?
Oui, non, mais attends, oui, parce que quand on lit
le bâtonnier appelle.
Voilà, ça se raconte, Vincent.
En fait, ce qui est très drôle dans cette affaire-là, ce qu'il faut juste raconter, c'est qu'à l'époque, Michel Fourniret, il avait déjà été jugé pour une bonne partie de son œuvre criminelle, on pourrait dire. Il avait des avocats dans le Nord, dans les Ardennes, et il a été alpagué dans cette affaire dans les Yvelines, et il a dit, bon, mes avocats seront trop loin, je vais écrire au juge en lui disant merci de me commettre, puisque c'est comme ça qu'on dit, l'avocat le plus quelconque du barreau, le plus quelconque. Et c'est tombé sur vous.
Ouais, c'est sympa comme
Vavasseur. La manière dont tu le racontes, c'est-à-dire qu'il y a un coup de fil et c'est presque une blague. La manière dont on vous confie le dossier.
Oui, parce que c'est le bâtonnier de l'époque qui vous appelle en vous disant j'ai un cadeau pour toi, tu vas voir.
Merde.
Oui, bah c'est vrai que c'est complètement improbable pour moi. Je décroche, c'est mon bâtonnier qui appelle et qui a dit tiens, j'ai un dossier pour toi, l'air rigolard, quoi. Après, ouais, ouais. Oui, c'est quoi? C'est Fourniret. Et là, effectivement, Fourniret venait d'être condamné aux Ardennes. Et moi, j'ignorais totalement qu'il y avait un dossier qui pouvait être dans les Yvelines.
Vous auriez pu refuser?
Alors, franchement, on n'imagine pas une seconde de refuser ce genre de dossier. Pourquoi? Bon, tout simplement parce que quand on fait du droit pénal et que c'est son bâtonnier qui vous appelle personnellement pour vous commettre d'office. D'ailleurs, c'est rare que le bâtonnier appelle, hein. C'est une exception. On ne pense même pas une seconde à refuser.
Vous n'avez pas dit, est-ce que j'aurai les épaules assez solides? C'est forcément un procès médiatique.
Écoutez, Fourniret a demandé un avocat quelconque, mais il est tombé sur un bon avocat, c'est-à-dire moi. Je me suis pas posé de questions. Je pensais que j'avais les épaules pour le faire. Le bâtonnier ne m'a pas appelé au hasard non plus. J'ai été secrétaire de la conférence. J'avais à l'époque un petit peu de bouteille. Bon, enfin, bouteille, pas beaucoup, mais un petit peu.
Les pénalistes, alors on ne défend pas le crime, on défend le criminel.
Ah, vous avez raison de le dire. On ne défend pas une cause, on défend simplement la personne.
Parce que j'imagine que dans vos entourages, ou je ne sais pas, on va dire, mais comment peux-tu défendre quelqu'un comme Fourniret?
Alors, dans mon entourage, fort heureusement, non. Mais effectivement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que si j'accepte cela, ça va me poser des problèmes? Oui, je me suis posé la question. En réalité, j'ai jamais vraiment senti quoi que ce soit de négatif. Mais bon, c'est sûr que quand on lit des choses sur Internet, les commentaires, etc., il y a toujours des gens pour trouver ça.
Il y a des débats sur Internet, il y a des gens pour tout.
Voilà, effectivement.
Mais comment on crée? Parce que quand on est l'avocat avec son client, il faut créer une proximité. Parfois même une intimité. Alors, parce que vous allez devoir l'accompagner longtemps, le voir, etc. Et quand c'est Michel Fourniret, comment ça se passe?
Alors c'est très curieux parce que Michel Fourniret, bon, le premier rendez-vous avec lui a été très bizarre parce que j'y vais un petit peu avec de l'appréhension, à la santé, on me conduit dans une petite pièce. Et là arrive le personnage qui a un regard perçant, bleu, qui est vraiment très inquiétant. Ces grosses pognes comme celle de Popeye avec aussi des avant-bras complètement surdimensionnés. On imagine ce qu'il a fait avec ça. Donc, le premier contact est déjà impressionnant. Et par ailleurs, je lui dis, monsieur, je me présente, maître Vavasseur, j'ai été désigné pour vous. Veuillez vous asseoir. Et là, il me regarde et il ne bouge pas. Monsieur, si vous voulez bien vous asseoir, je vous en prie, il ne bouge pas. Je répète une troisième fois, il dit, on ne demande pas à Fourniret de s'asseoir. Je dis, écoutez, monsieur.
Et parle-lui à troisième personne.
Voilà, exactement. Ça fait partie de ces formules. Alors, je lui dis, écoutez, monsieur, il va falloir changer d'avocat parce que moi, je vais pas faire des dizaines de rendez-vous avec vous en restant debout, donc ça va pas être possible. Et bon, je sais pas, ça devait être une sorte d'épreuve qu'il me fait passer. Je sais qu'il l'a fait avec d'autres parce que je l'ai vu dans des expertises qu'il a pratiqué de la même manière. Et donc, il s'est déridé immédiatement après ça. Et ensuite, je peux dire qu'il a été charmant avec moi. Franchement, je suis désolé de le dire. Oui, charmant, vraiment charmant.
Il a collaboré,
pas du tout. Il a pas du tout collaboré, mais par contre, discuter avec moi, deviser, si vous voulez, ça, c'était.
Pas du tout collaboré, ça veut dire.
Parce que quand on pose une question à Fourniret, il vous emmène sur une fausse piste, donc c'est même pas la peine de vouloir lui poser.
Même avec son avocat, il est.
Même avec son avocat. Donc, j'ai compris au bout d'un moment que c'était pas la peine de lui poser des questions concrètes. Qu'il fallait discuter et au fil de la discussion, éventuellement au détour d'une conversation, peut-être éventuellement obtenir quelque chose.
Est-ce que vous avez ressenti chez lui un soupçon de remords?
Aucun. Je ne pense pas. En fait, je pense qu'il se targuait d'être le tueur en série le plus abouti, c'est le terme aussi des experts.
Il aurait été fier?
Je le pense. Franchement, je le pense. Oui.
Et ce qui est marrant, enfin, ce qui est très intéressant dans la relation que vous avez pu tisser avec lui, c'est qu'effectivement, il parlait pas du fond du dossier, mais en revanche, il y a une correspondance très nourrie avec vous tout au fil de ces années de détention, où il vous proposait même, à un moment donné, de vous aider pour l'aménagement de votre maison, il faudrait que vous fassiez tels travaux. Ce qui n'est pas ce qu'on attend d'un client qui est.
En fait, c'était des conversations assez banales.
On parlait de littérature, de tout et de rien. C'est vrai qu'une fois, effectivement, je lui dis, tiens, je vais déménager à tel endroit. Il me dit, écoutez, maître, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous me demandez comme s'il pouvait venir m'aider à faire des travaux.
Vous êtes le défenseur de Fourniret, et puis on verra avec tous les autres avocats que tu as rencontrés. On cherche la vérité ou on cherche à atténuer la peine?
Alors, chaque dossier est différent, donc je ne peux pas vous répondre. Pour le dossier de Fourniret et concernant Farida Hamish, on cherchait où était enterré le corps. Donc, effectivement, moi, j'aurais aimé collaborer avec la justice et trouver le moyen de faire parler Fourniret sur le lieu de dissimulation du corps. Ça n'a pas été possible au début parce qu'il n'a pas été très collaboratif, et puis après, parce qu'il avait perdu toute sa tête, à mon avis.
Mais quand on défend le client, on essaie de trouver en lui une part d'humanité, des circonstances atténuantes, etc., le rendre plus présentable, finalement, aux yeux d'un tribunal. Ça va être compliqué avec Michel Fourniret. Comment on fait?
Alors, avec Michel Fourniret, c'était le dossier le plus simple de ma carrière aux assises, puisque je n'avais aucune obligation de résultat. Il était déjà condamné à perpétuité incompressible. Et par ailleurs, lui s'en fichait totalement. Donc, il me laissait carte blanche pour plaider. Il ne m'a même pas demandé ce que j'allais plaider.
Ah oui.
Donc aucune pression de ce côté-là. La seule pression que j'avais était médiatique en ce qui me concerne, c'est de plaider devant 200 journalistes. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'un autre dossier. Mais sinon, concernant la pression sur le résultat, je n'en avais pas. Aucune. Aucunement.
Et la plaidoirie était bonne.
Moi j'ai une question pour vous deux. À vrai dire, la criminologie, ça passionne les Français. C'est vraiment un sujet qui passionne beaucoup de monde. Tout le monde essaie de comprendre pourquoi. Même les faits divers, parfois, ça passionne les Français. Comment vous expliquez ça? Vous êtes tous les deux des professionnels de ce sujet. Vous écrivez même un livre sur ce sujet qui, à mon avis, va passionner les Français aussi, puisque ce sujet intéresse beaucoup. Comment vous expliquez qu'on est tous envie de comprendre l'incompréhensible?
Alors, pour ma part, moi, je pense que l'explication, elle est à voir dans la psychologie des gens. C'est-à-dire que quand on va regarder l'horreur extrême, on parlait des actes perpétrés par Michel Fourniret ou d'autres, on se dit, finalement, lui, c'est un vrai monstre. Ça permet de prendre de la distance et de se dire qu'on est normal. Il y a quelque chose de psychologique là-dedans, de se dire... Finalement, en s'intéressant à ça, en regardant ça, moi, ma vie, je suis très bien comme ça parce que j'en suis pas à ce stade-là, j'en suis pas à perpétrer ces horreurs-là. Il y a une forme de mise à distance.
Ah oui, il y a pire que moi.
Pardon ?
Il y a pire que moi. Ça permet de se dire, il y a pire que moi.
Il y a pire que moi, mais c'est toujours, il y a effectivement, il y a toujours du voyeurisme et il y a aussi la façon de se mettre en perspective.
Mais cette passion pour les faits divers, les émissions sur les crimes, il y en a un peu partout, les podcasts, etc. Pourquoi, à votre avis, maître ?
Oh, parce qu'on rentre dans la noirceur de l'humanité, donc ça intrigue, ça passionne, ça me paraît normal. Moi, je comprends que les gens soient complètement...
On raconte quelque chose à la société aussi, un fait divers.
Un fait divers, ça raconte quelque chose à la société. Maintenant, il y a les assises, c'est un petit peu, pour moi, autre chose, où là, on rentre sur des choses qui sont complètement compréhensibles pour la plupart des gens, quand on parle de meurtre.
Vous voyez, pendant que vous parlez, j'ai ma mère.
Ah,
qui vient de m'envoyer un SMS en instantané. Elle me dit, décidément, c'est horrible. Je ne comprends pas. Impensable de le défendre. La défense pour ce genre de personnes.
C'est des choses
pour lire le livre. Ne s'applique pas.
Il faut lui apporter le livre.
Mais je vais lui envoyer.
Il faudrait demander à votre mère si elle souhaiterait que les gens soient jugés sans défense. Ça me paraît un petit peu compliqué.
J'imagine un peu où elle l'envoie.
Oui, mais le problème, c'est le cas par cas, justement.
C'est un vrai sujet.
Attendez, pas en même temps.
Je me posais exactement la question de ta maman. Et quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé les réponses, en fait, puisque on découvre, en fait, comment un avocat est nommé. Parce que nous, quand on cherche un avocat, on va sur Internet, on regarde, tiens, t'en connais pas un.
Ouais.
Alors, on s'attend pas à ce qu'effectivement, ce soit le bâtonnier, parce que vous avez prêté serment, qui appelle et qui choisit et qui dit, voilà, vous êtes commis d'office et donc vous allez vous occuper de ce dossier. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé intéressant. Et peut-être, il me manque un élément. Là, on a que des condamnés. Que des presque des saloperies de l'humanité dans ce bouquin. Pour un équilibre, je trouve qu'il aurait manqué justement l'utilité de quelqu'un qui aurait été accusé de quelque chose.
Il y en a
mais
un.
Qu'il n'a pas. Mais
il y en a
pas,
un.
Je l'ai pas lu.
Petit Hugo,
je suis passé trop vite.
Le voisin du petit martyrisé, en fait, qui au départ
dans
a
le livre,
été acquitté
moi, je parle
à chaque
livre.
Fois et malheureusement n'a pas.
Malheureusement non.
Ça fait gaufrer à chaque fois.
Oui, alors dans le livre, il y a effectivement des gens qui ont été condamnés. Il y a des gens dont les procédures, par exemple, le voisin du petit Tony, effectivement, la procédure est toujours en cours. On parle aussi, par exemple, de Jawad Ben Daoud qui a été relaxé en première instance, le logeur des terroristes du Bataclan, avant d'être condamné. En appel, donc on voit aussi la construction justement...
Condamné en définitive, en fait.
Condamné en définitive, voilà. Effectivement. Après, ça montre l'utilité de l'avocat.
Mais c'est exactement ça.
Comment on met en place une stratégie de défense, comment on arrive à emporter la conviction, que ce soit d'un juré d'assises, ou d'un tribunal, avec des résultats. Alors après, là, il y a des affaires aussi, on parlait de Fourniret, c'est compliqué de le faire acquitter lorsqu'il a reconnu.
Mais les avocats que tu as rencontrés sont tous sur le même moule, la défense coûte que coûte, où il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, plus sensibles que d'autres.
Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je suis parti sur cette idée-là d'aller les rencontrer, d'aller les interroger. Et pourquoi le bouquin s'appelle Les défendre tous? Parce que lors du premier entretien, c'est la réponse qu'on m'a fournie. Quand je dis, mais comment vous arrivez à défendre telle personne? La question se pose pas. Il faut les défendre, il faut les défendre tous. Et puis, au deuxième entretien, j'ai eu la même réponse. Et puis, la troisième entretien, la même réponse dans des mots parfois un peu différents. Et là, je me suis dit, en fait, ces avocats ont une humanité, j'ai pas peur de le dire, et surtout un engagement qui dépasse leur simple raison d'exister.
Ils
mettent la cause au-dessus, finalement, de leur propre existence. Et
moi, je trouve hyper intéressant les doutes de cette avocate d'une infanticide. Alors, je sais plus si c'est... Bourgeon ou si c'est la mère de la petite Fiona. Mais en fait, elle a le landau, elle est en train de taper le dossier, puis elle a le landau de son enfant à côté qui a quelques mois, et est en train de se dire, attends, je suis en train de défendre une meuf qui a tué 8 gamins, en fait. Et moi,
c'est Ludivine Braconnier qui a donc défendu le voisin du petit Tony, qui est un gamin qui a été martyrisé, qui a fini par en mourir. Et effectivement, quand elle a récupéré ce dossier avec toute l'horreur, parce que ce petit gamin a été torturé pendant un mois et demi avant d'en décéder, elle vient d'accoucher et elle dit, j'ai ma fille dans le landau, je travaille de chez moi, je suis dans le salon. Et j'ai les pièces du dossier sous les yeux, et quand je tourne la tête, j'ai mon bébé. Et j'ai ces questions que tout le monde se pose inévitablement. Et c'est son compagnon qui lui dit, mais t'as raison d'exister, c'est de défendre toutes les causes, tu l'as toujours fait. Alors oui, effectivement, notre vie change parce qu'on vient d'avoir un enfant, mais tu dois y aller. Et depuis, elle s'est accrochée à ça, et c'est le combat de sa vie.
On va continuer de discuter avec Vincent Mantinghem, avec Maître Vavasseur. Ce livre, on vous le conseille. Les défendre tous, rencontre avec ces avocats qui ont défendu Michel Fourniret. Alors, on a les noms, Adrien Quatennens, Michel Fourniret.
Ça devait faire plaisir à
Cécile Bourgeon, Patrick Balkany.
Un mot quand même, Vincent, parce que j'ai ri un peu.
C'est une question qui m'a été posée. Donc,
Adrien Quatennens aux côtés de Michel Fourniret,
en premier,
il doit être content, Quatennens. En plus, tu l'as mis en premier, Quatennens.
Alors, pour le coup, il n'y a rien de volontaire, c'est juste un choix d'édition. Et pour le coup, je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. Et il ne faut effectivement pas faire le lien entre Adrien Quatennens et Michel Fourniret. Vincent, mais on peut aussi dire que Patrick Balkany, il est juste en dessous.
Le A, c'est la première lettre de la l'alphabet d'Adrien.
Ils sont tous là.
C'est aux éditions du Rocher. Maître Vavasseur est là, c'est l'avocat de Michel Fourniret. Il est avec Vincent Mantinghem, mais on va continuer d'en discuter.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Dans les GG, aujourd'hui, on a deux invités pour terminer la semaine avec notre ami Vincent Mantinghem. Il est journaliste au service police-justice de BFM TV. Vous avez l'habitude de le voir sur les plateaux pour les affaires judiciaires, pour les faits divers. Il revient avec ce livre, Les défendre tous, aux éditions du Rocher, préface de François Molins, le proc Molins. Et vous, tu t'es intéressé à ces avocats qui ont pris des clients que nous, on pourrait considérer comme indéfendables. Mais c'est la fonction de l'avocat, c'est l'honneur de l'avocat, c'est la passion, la conviction de l'avocat, c'est d'aller jusqu'au bout d'une cause. Et nous, tu es venu, et merci, avec Maître Vavasseur, qui a été l'avocat de Michel Fourniret. Question, Bruno Poncet.
Alors, moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que moi, j'ai participé à un procès pendant plus de 10 mois, procès qui a été retentissant en France, évidemment. Et en fait...
Parce que je rappelle, tu as rescapé du Bataclan. Ouais.
Et je conseille à toutes les personnes qui peuvent aller voir un procès, quel qu'il soit, pas forcément un procès aussi gros, mais aller voir un procès, parce que le fonctionnement de la justice, la façon dont ça travaille de deux côtés, c'est hyper intéressant. Et le défendre tous, moi, ça m'a touché tout de suite, parce que pour moi, j'ai cette fierté de me dire que quand on a jugé les terroristes qui étaient encore survivants, les derniers qui étaient là, on l'a fait avec notre humanité, avec notre démocratie, et on a répondu à la barbarie, parce que nous, on doit être, c'est-à-dire des gens civilisés. Et ils ont été jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, la plupart qui étaient dans le box n'ont pas participé physiquement, intégralement à l'attentat. Ils ont participé à tout ce qui était autour, mais pas à l'attentat en lui-même, vu que les mecs qui ont tiré sont morts. Et donc, c'était hyper intéressant que nous, on les juge bien et qu'on montre à tout le monde que la réponse peut pas être Guantanamo, ou la réponse peut pas être, tu l'attrapes, tu le jettes par la rue, ou tu le fous dans un train. Et pour revenir à les défendre tous, moi, je suis dans un lycée où je fais des interventions au milieu scolaire, autour des attentats et de la justice. Et on était sur ce thème-là. Faut-il les défendre? Et les gamins étaient un peu. Et pourtant, c'est des gamins qui venaient de tout horizon. Ils étaient en train de te dire au départ, non, faut pas les juger, en fait, pour qu'on les juge, pour qu'on s'emmerde à les juger. Voilà, on arrête tout. Et voilà.
C'était utile de juger Salam Deslam, tu penses?
Oui, parce qu'en plus, tu vois, il y a un truc qui s'appelle l'expression de la vérité. C'est-à-dire que nous, on avait plein de questions, tu vois. Et Salam Deslam n'a pas parlé. Mais le travail de ces avocats et de tous les avocats des parties civiles, Maître Vasseur était présent, il peut te le dire, ont permis à un moment donné que nous, on ait un peu une vision de la vérité. Et en même temps, moi, à la fin du procès, j'avais pas toutes les réponses à mes questions, mais en attendant, j'ai pu après clore mon dossier à moi, en tout cas.
Grégory, Vavasseur, un procès, c'est aussi utile pour les victimes?
Oui, tout à fait. Alors, Bruno Poncet a parfaitement résumé les choses, puisque lui-même a été victime et a vécu un grand procès, celui du Bataclan, j'y étais également. Et il a pu comprendre qu'effectivement, c'est grâce au fait qu'il y a un procès qui va au fond des choses, où on donne la parole également à la défense, qu'on permet justement de bien comprendre ce qui s'est passé et d'accepter finalement la sanction finale. Je pense que s'il n'y a pas eu de bonne défense, on ne peut pas sanctionner correctement.
Une question, parce que vous avez été l'avocat de Fourniret, ça rapporte des clients d'être l'avocat de Fourniret?
À mon sens, aucun, je pense. Non,
mais non, aucun.
Mais parfois,
le client ou la cliente ment à son avocat. C'est ce que raconte l'histoire de Cécile Bourgeon. Il faut rappeler Cécile Bourgeon, elle est co-responsable de la mort de sa fille Fiona, 5 ans. C'est son compagnon de l'époque qui a tué... qui a frappé à mort cette petite fille. Et Cécile Bourgeon avait raconté à la France entière qu'elle s'était assoupie dans un parc, que sa fille était partie, avait disparu.
Elle avait disparu.
Et elle avait menti à tout le monde, mais aussi à son avocat.
Oui, et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, elle a menti à la France entière.
Et l'avocat est resté pourtant.
Oui, c'est là-dessus où je veux en venir. Elle a menti à la France entière pendant 3 mois en disant « Aidez-moi à aller chercher ma pépette ». Elle l'appelait ma pépette devant toutes les caméras de la France, alors qu'elle savait très bien qu'elle l'avait... enterrée en bordure d'une forêt au moment des faits. Et l'avocat, donc Renaud Portejoie en Auvergne, qui s'est occupé d'elle, la défendait quand elle recherchait sa fille et a continué à la défendre quand elle a été placée en garde à vue pour avoir commis des violences et ayant entraîné la mort de sa fille. Et je lui ai posé la question à Renaud Portejoie en disant « Mais est-ce que t'as pas hésité ?» Du coup, elle t'avait quand même menti. Et il m'a dit « Mais faut pas avoir de pudeur de gazelle. Bien sûr que les clients nous mentent au début, c'est ça notre travail. Le travail d'un avocat, c'est de défendre. » Et moi, j'aime bien le mot accompagner le client, parce que parfois on va réussir à accompagner un client peut-être jusqu'aux aveux pour avoir cette vérité judiciaire, pour avoir le moment de vérité, pour aider aussi les parties civiles ou les victimes dans un procès. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous accompagne sur ce chemin-là.
Je confirme effectivement que quand un prévenu ou un accusé va pour mentir auprès de la juridiction, dans aucun des cas, il ne dit autre chose à son avocat. C'est-à-dire qu'il ment à son avocat systématiquement. Et ça fait partie aussi du rôle de la défense que de pousser parfois nos clients à dire la vérité. Ça peut être aussi un rôle.
Est-ce que l'avocat peut accompagner le mensonge? L'avocat sait que son client ment, mais bon, comme
si
c'est
l'avocat, écoutez, là, ça dépend de chaque dossier. Je peux pas vous répondre comme ça. Mais si le dossier est une évidence, quelqu'un a pris la main dans le sac, et que le client continue à mentir, l'avocat trouve une façon de plaider qui montre qu'il a très bien compris que son client mentait, et il part sur des chemins de traverse qui lui permettent de plaider quand même quelque chose d'intéressant.
Là, vous avez indiqué qu'il n'a pas voulu parler, il ne vous a pas donné d'instructions, il vous a laissé libre dans votre plaidoyer. Imaginons qu'à contraire, où il vous dit où se trouve le corps, et vous dit « moi j'emmerde la justice française, je ne veux surtout pas qu'il le sache ».
Mais il vous dit où est. Est-ce que vous, quel est votre, quel est votre devoir, votre obligation?
Mon obligation est de suivre ce que mon client me dit. S'il me dit à moi, ça fait partie du secret professionnel, je peux pas, et qu'il me demande de pas aller le dire à la justice, je ne le dirai pas. Mais mon rôle aurait été, si ça avait été le cas, de le pousser à le dire officiellement.
C'est terrible, votre métier, quand même. C'est-à-dire de l'accompagner pour lui dire, OK, aujourd'hui, tu veux pas le dire, mais.
On passe des nuits blanches le lendemain des assises. Enfin, moi, je parle pour moi. Je passe des nuits blanches le lendemain des assises, mais en dehors de ça, je cloisonne tout. Donc,
est-ce que parfois ça change le quotidien de certains des avocats? Est-ce que le regard sur eux change? Est-ce que ça perturbe leur fonctionnement familial aussi?
Ah oui, parce que déjà, notamment sur les gros procès pénaux d'assises, c'est un engagement à plus que 100%, c'est-à-dire qu'on dort, on mange, on vit et on travaille avec le dossier qu'on est en train de plaider. Et les avocats me disent, et même nous en tant que journalistes, quand on va couvrir un procès d'assises sur une semaine ou 15 jours, quand on a terminé, on a besoin de 24-48 heures pour... On a l'impression que le monde s'est arrêté, il y a un sas de décompression. Il y a le procès de Fabienne Cabou que je raconte dans l'ouvrage avec deux avocats, Franck Berton et Fabienne Roy-Nancion. Et Fabienne Roy-Nancion me disait, à la fin du procès, il faisait beau, il faisait chaud, mais j'étais chez moi prostré sur un fauteuil, j'avais besoin d'un plaid parce que j'avais froid. Et 2 jours après, mon collègue Franck Berton m'a appelé pour me dire qu'il avait passé le même week-end parce qu'on a besoin de ce sas de décompression. On a l'impression que les gens peuvent pas nous parler d'autre chose parce qu'on a été vraiment... l'esprit focalisé comme ça pendant une semaine ou 15 jours.
Ce que je trouve hyper intéressant dans vos entretiens, c'est l'humanité qui ressort des avocats et du lien qu'ils arrivent à tisser avec leurs clients malgré le fait que des fois, enfin là vous parliez de Fabienne, enfin c'est Saint-Omer, hein, tout le monde sait l'histoire où elle emmène sa gamine pour qu'elle se noie sur une plage. Donc c'est d'une violence sans nom, et tu vois. Et moi je trouve qu'à chaque fois il y a cette humanité. Tout à l'heure on parlait de l'avocate qui est juste maman, on parle de toutes ces avocats. Souvent en plus vous avez beaucoup de femmes qui ont défendu des cas alors extraordinaires et surtout d'infanticide. Et c'est incroyable parce que moi je trouve que l'humanité qui ressort de leur relation avec leurs clients, ça donne comme encore fois l'humanité pour plein de gens en fait.
Je vais accompagner ça parce qu'effectivement beaucoup choisissent. Alors choisissent pas toujours, mais quand ils peuvent choisir, ils choisissent des femmes parce qu'ils se disent avec une femme ça passera mieux, ça va adoucir ce qu'on peut me reprocher. Alors, et notamment les auteurs de violences conjugales ou sexuelles,
sauf pour Monica.
Les hommes choisissent souvent des femmes pour se défendre.
Alors il y a peut-être une petite part d'inconscient en disant que ça va mieux passer. Après, sur certains dossiers, il y a des circonstances qui disent bah voilà, c'est une, c'est une femme ce jour-là qui est commise d'office.
Mais quand on est accusé d'avoir giflé sa femme, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une femme pour se défendre?
Alors c'est un calcul qui peut être fait effectivement par un client ou par quelqu'un qui est pris là-dedans. En revanche, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça ne joue pas sur l'esprit des magistrats.
Peut-être sur l'opinion publique, Grégory Vavasseur.
Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. J'ai pas d'opinion sur le choix du sexe de l'avocat. Je pense qu'on fait tous le même métier.
Surtout que je suis un homme.
Et effectivement, bon, certains peuvent peut-être avoir cette stratégie-là, mais comme le dit Vincent Antillem, pour les juges, ça ne fait aucune différence.
Et pourquoi c'était important pour vous de raconter ça à Vincent?
Oh bah écoutez,
pour mieux expliquer votre métier, on va passer vous aussi parce que on peut vous assimiler à un salaud aussi finalement. Oui, il défend Fournieret, ben lui aussi c'est un salaud.
C'est une bonne remarque. J'ai apprécié l'approche de Vincent Ventigam qui s'intéressait à la personnalité de l'avocat et à son cursus mental au moment où il reçoit un nouveau dossier, etc. Donc j'ai bien aimé cette approche. Moi je réponds un peu finalement aux sollicitations, mais pour le coup là j'ai apprécié, donc j'ai bien voulu.
Ce qui serait difficile, c'est d'être l'avocat d'un criminel établi, et pour des raisons de procédure, il sort.
Bah, écoutez, je vais vous avouer que pour le dossier Fournieret, ça a été d'ailleurs je n'ai pas voulu le faire sortir, mais disons que sur le dossier qui me préoccupait, il y avait pour moi, selon moi, une prescription. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Je suis même allé jusqu'à la Cour de cassation. Voilà, c'est effectivement la procédure.
On cherche les moyens de.
Mais c'est pas qu'on cherche les moyens, c'est qu'on fait un travail.
Merci, messieurs. Franchement, c'est à lire. Le témoignage de ces avocats, dont Maître Vavasseur, l'avocat de Michel Fournieret, recueilli par Vincent Ventigam. Les défendre tous, préface de François Molins, le proc Molins, proc du terroriste, si vous vous souvenez, aux éditions du Rocher. On vous le conseille. Merci, Maître Vavasseur.
Merci à vous.
Merci
à vous.
Vincent Ventigam. N'oubliez pas, lundi, c'est le ministre de l'économie qui viendra dans son face au GG. Monsieur Bruno Le Maire, qu'on appelle maintenant le ministre des économies, mais où faire ses économies? Il sera avec nous, Bruno Le Maire, lundi. Bonjour Estelle Denis.
Salut les GG. Bah, écoutez, nous allons aussi nous parler de ces 5,6% de déficit pour la France. On va se demander s'il faudrait faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français. Vous savez, aujourd'hui, c'est 44% de Français qui payent l'impôt sur le revenu. Mais est-ce qu'on devrait mettre un impôt, même symbolique, pour tous les Français? On en parle dans un instant.
Oui.
C'est la semaine de la francophonie en ce moment. Et pourtant, on utilise de plus en plus d'anglicisme dans notre quotidien. La langue française est-elle en danger? Et puis après, Camaille, Gap ou encore Koukaï, ce sont du pareil au même. Sergent Major et 26 Galeries Lafayette en province qui sont touchés par la crise.
Comment tu vas faire pour t'habiller?
Ben voilà. Est-ce que c'est la fin? Est-ce la fin des boutiques?
Font, hein. C'est le problème.
Ville.
Les gens, ils viennent essayer dans les magasins et après, ils filent sur Internet acheter. Voilà. Ça s'appelle détruire de l'emploi.
Mais c'est la mort de nos centres-villes.
Bah oui, et la mort de nos centres-villes. Donc, vive le commerce responsable et les achats responsables.
Bah, appelle-nous à 14h.
32-16 pour réagir avec Estelle. Passez un bon week-end. Rendez-vous lundi 9h avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.